Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée Chemin de vérité. Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. L'étude de ce jour, dernière dans une série sur l'Église, s'intitule Le festin de noces, la destinée glorieuse de l'Église. Au cours de notre étude de l'Église, nous l'avons vue présentée sous plusieurs aspects et comparée à plusieurs choses qui nous sont familières. Certains passages bibliques comparent l'Église à un bâtiment, plus précisément à un temple pour Dieu. D'autres passages se réfèrent à l'Église comme étant le royaume de Dieu, ou bien comme le corps de Christ. Une image biblique sur laquelle nous n'avons pas insisté servira de thème pour ce dernier chapitre dans cette série. C'est l'image de l'Église comme l'épouse de Christ, comme sa fiancée. Les fiançailles telles que pratiquées par les Juifs au temps du Nouveau Testament étaient un peu différentes de la coutume moderne. Nous apprenons beaucoup à travers le cas de Joseph et Marie, la mère de Jésus. En Matthieu 1, versets 18 et 19, nous lisons « Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils n'eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Le récit se poursuit avec l'envoi d'un ange du Seigneur qui dit à Joseph, « Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Matthieu 1, versets 20 et 24 et 25. Bien qu'elle soit encore sa fiancée, et que les rapports sexuels leur soient encore interdits jusqu'au jour du festin des noces, Marie était appelée en même temps sa femme. Et le texte appelle Joseph l'époux de Marie. Les rapports sexuels avec un autre homme auraient constitué non seulement une fornication, mais un cas d'adultère. Rompre avec elle aurait exigé une procédure légale équivalente au divorce. Quand donc l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe « Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure », nous devons comprendre qu'il s'agit d'un engagement très fort, un devoir de se garder pur jusqu'au jour du mariage même, et un droit de se considérer déjà comme l'épouse du Christ. Mais en même temps, c'est l'anticipation de la joie future dans laquelle on n'est pas encore entré. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu était souvent représenté comme l'épouse de Dieu, surtout dans le livre du prophète Osée. Dans le Nouveau Testament, le même langage revient, appliqué au Christ comme l'époux. En Jean 3, versets 28 et 29, Jean-Baptiste se réfère à Jésus comme étant l'époux, quand il dit « Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. » Mais dans quel sens Jésus serait-il comme l'époux de l'Église? En Éphésiens 5, l'apôtre Paul explique la relation entre un homme et sa femme. Il cite la relation entre Christ et l'Église pour nous aider à mieux comprendre. En s'adressant aux hommes, il dit « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens 5, versets 25 à 27. Un mari doit aimer sa femme comme son propre corps, au point de donner sa vie pour elle si nécessaire. Il doit la protéger, pourvoir à ses besoins et la chérir. Voilà ce que Jésus fait pour l'Église. Une femme, pour sa part, respecte son mari, cherche à lui plaire, reconnaît son autorité et lui reste toujours fidèle. L'Église doit faire autant pour Jésus. Ce passage nous dit aussi que Jésus a sanctifié et purifié l'Église, voulant se la présenter comme son épouse, pure et belle. Cette purification a lieu au moment du baptême, qui évoque le bain de purification pratiqué par la future épouse juive avant son mariage. Beaucoup ne reconnaissent pas que le baptême est nécessaire pour la purification des péchés, mais la Bible l'enseigne clairement. Comme Ananias dit à Saul de Tarse en Actes 22, verset 16, « Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. » Le lien entre notre salut du péché et notre immersion au nom de Christ se voit aussi en Tite 3, verset 5, où Paul dit que Dieu nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Jésus veut que son Église soit sans tache. C'est au moment du baptême, ce bain dans lequel nous sommes nés de nouveau, que toutes les taches du péché sont lavées et que nous sommes purifiés. La coutume exigeait non seulement que la future épouse se lave le corps pour être pure, elle se vêtait aussi d'un habit spécial. Le livre d'Apocalypse, qui emploie plusieurs fois l'image d'une mariée pour parler de l'Église, fait un lien entre son habit de noces et deux autres choses qui sont nécessaires. Le sang de Christ qui purifie du péché et les œuvres qui marquent la fidélité des chrétiens envers le Seigneur. En Apocalypse 7, un ange dit au sujet d'une grande foule dans le ciel qui portait des robes blanches, « Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. » Apocalypse 7, versets 14 et 15. Plus tard, Jean entend au sujet de l'épouse de l'agneau, « Son épouse s'est préparée. » Et il lui a été donné de se revêtir de fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Tout comme il faut être lavé du péché dans le baptême et avoir ainsi ses robes blanchies dans le sang de l'agneau, il faut se conserver pur en attendant le jour des noces, le jour où le mariage est consommé et l'Église entre dans le bonheur éternel. Quand Joseph pensait que Marie lui avait été infidèle avant le jour de noces, il a eu l'intention de rompre avec elle, de ne plus la prendre comme sa femme. Heureusement, l'ange de l'Éternel l'a rassuré que sa fiancée ne s'était pas compromise et il ne devait pas hésiter de se marier avec elle. Mais si nous nous rendons infidèles envers le Seigneur avant le jour final, soit par une vie d'immoralité ou d'autres sortes de péchés, soit en embrassant la fausse doctrine, nous nous verrons rejetés. Voilà pourquoi Paul exprime son inquiétude concernant l'Église de Corinthe qui s'éloignait de la vérité. Paul dit, « Je suis jaloux à votre sujet, d'une jalousie qui vient de Dieu, car vous êtes comme une vierge pure que j'ai promise en mariage à un seul époux, qui est le Christ. Mais je crains que votre intelligence ne se corrompe et que vous n'abandonniez votre attachement fidèle et pur au Christ, tout comme Ève se laissa égarer par les mensonges habiles du serpent. Car vous supportez fort bien que quelqu'un vienne vous annoncer un Jésus différent de celui que nous vous avons annoncé. Vous êtes également prêts à accepter un esprit et un message différent de l'esprit et de la bonne nouvelle que vous avez reçue de nous. » 2 Corinthiens 11, versets 2 à 4. La nécessité de se garder pur se voit aussi en Apocalypse 3, versets 4 et 5, où le Seigneur dit à l'Église dans la ville de Sardes, « Tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Encore en Apocalypse 22, verset 14, nous lisons « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Il s'agit bien sûr de la ville céleste. Tout chrétien vit dans l'espérance du retour de Jésus-Christ. Dans un passage bien aimé de l'Évangile, Jésus dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jean 14, versets 1 à 3. Ce retour pour nous chercher correspond à l'arrivée d'un époux juif qui, au jour des noces, venait avec ses camarades chez l'épouse pour l'accompagner au milieu des réjouissances dans sa propre demeure. À la fin de l'Apocalypse, ce jour est décrit dans ces termes. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir de fin lin, éclatant, pur. » Apocalypse 19, versets 7 et 8. Au verset 9, l'image collective de l'Église comme épouse de Christ cède la place à celle des saints individuels, présentés comme les invités, et les amis de l'époux. Et l'ange me dit, « Écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. » Et il me dit, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Deux chapitres plus tard, l'image de l'Église comme épouse revient une dernière fois dans cette belle description de l'Église glorifiée, prête à entrer enfin dans les joies célestes pour lesquelles elle a tant lutté. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. » Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21, versets 2 à 5. Ne voulez-vous pas avoir part à ce bonheur éternel? Jésus n'est pas polygame. Comme nous l'avons vu plus tôt dans cette série d'études, il y a un seul corps, Éphésiens 4, verset 4, une seule Église. Quand vous obéissez à l'Évangile, le Seigneur vous ajoute à cette Église. Acte 2, verset 42. Et vous avez part à la glorieuse espérance dont nous avons parlé. À l'heure où nous sommes, cette possibilité vous est encore offerte. Selon Apocalypse 22, verset 17, et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. L'Esprit par la parole, et l'Épouse, c'est-à-dire l'Église, par sa prédication, invite les hommes à venir afin de pouvoir s'abreuver de l'eau de la vie. Acceptez l'invitation avant qu'il ne soit tard. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau.
Les pleurs, les plaintes, les peurs, les craintes, Dieu l'a promis, ne seront plus. Je veux renaître, mon vœu c'est d'être au ciel toujours avec Jésus. Bonheur sublime, vers cette cime, je tourne mes yeux éblouis. Les pleurs, les plaintes, les peurs, les craintes,
ne seront plus Dieu l'a promis. Le deuil des larmes, l'orgueil des âmes seront bannis à tout jamais. Ami, viens vite, Dieu qui t'invite t'offre une place en son palais. Bonheur sublime, vers cette cime je tourne mes yeux éblouis. Les pleurs, les craintes ne seront plus, Dieu l'a promis.